Bonjour à vous et bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. Merci d'être là encore cette semaine, que vous soyez là ici en classe virtuelle. On est tout près d'une cinquantaine maintenant en classe virtuelle. Sinon, par podcast, j'ai vu qu'il y en a plusieurs là, qui s'étaient abonnés au podcast puis qui téléchargent les épisodes. Comme ça, chaque semaine, le professeur met la table pour leur module. Sinon, cette semaine, ce sera deux modules. Donc aujourd'hui, je vous avertis, ce sera légèrement plus long. On n'en a pas pour 3 heures non plus, mais je dirais 3 quarts d'heure. On devrait faire le tour de ces deux premiers modules. On aura mis la table et je me serais même permis, je vous le promets, de répondre à vos questions. Aujourd'hui, donc, deux modules. Le premier module, c'est un module, le module 4. Donc, avant d'en parler peut-être, je me permets de vous remercier pour les mimes que vous me faites. Il y a une page de mimes. À chaque session, j'ouvre une page pour, je me dis, les étudiants vont me faire des liens humoristiques, je dirais, entre la culture mimétique et le contenu du cours. Chaque session, ça mord un peu à l'hameçon, mais pas tant que ça. Écoutez, cette page-là est en feu, littéralement. Il y a beaucoup de bons stocks, là. Vous irez voir. Il y en a qui me font des liens parfois ténus avec le cours, mais souvent, là, c'est tout à fait pertinent avec le cours. Vous irez voir un peu à quoi ça ressemble, mais disons que j'ai beaucoup de plaisir à consulter tout ça. Deux modules, donc, cette semaine. Le module 4 sur la grille de Legault. Hein, Legault, ce n'est pas notre premier ministre qu'on voit là, plusieurs fois par semaine maintenant. Non, c'est Georges Legault. Que je vous présenterai peut-être un peu plus tard. C'est la grille d'analyse que nous allons utiliser dans ce cours. Elle vous sera expliquée dans le module 4. Vous en aurez besoin pour résoudre votre problème. Donc, tout ce qui est le gros TP de ce cours, le TP2, vous aurez besoin de la grille que j'explique dans ce module 4. Donc, je vous invite à consulter dès maintenant ce module 4, à vous familiariser avec cette grille. Et ensuite, vous pourrez l'utiliser pour votre TP2 puisque ça s'en vient dans les prochaines semaines. L'autre module, c'est le module 5, qui est un module, je dirais, côté pédagogie, qui est assez classique, là. C'est l'histoire du professionnalisme. Donc, je vous raconte cette histoire, la structure du cours, c'est historique, donc c'est pas très chronologique, puis je fais mon possible pour vous rendre cette histoire la plus agréable et palpitante possible. Plutôt en m'assurant là, que vous connaissiez là, les principales balises. Donc, module 4, je me permettrai d'en dire quelques détails. Tiens, je vois là, Valérie Roberge, auxiliaire de secours, qui est là maintenant en classe. Bonjour Valérie, bienvenue. Je suis content que tu sois là aujourd'hui. Module 4, donc. Le module 4, c'est la grille de Legault, la grille d'analyse. Cette grille, elle est relativement simple, mais il faut quand même prendre le temps là, de bien l'explorer dans l'enregistrement de cours. Vous avez accès à l'enregistrement de cours que j'ai donné cet hiver. Les explications sont nombreuses. Je prends 3 heures avec mes étudiants pour non seulement leur expliquer la grille, mais comment on peut la mettre en application avec un cas pratique. Concret. Vous irez voir c'est quoi le problème que j'ai soumis à mes étudiants. Mais elle est simple, mais en même temps, j'ai multiplié dans le module, vous allez le voir, là, plusieurs façons de vous expliquer. Je pense que c'est un trait commun d'ailleurs entre le module 4 et le module 5. Il y a beaucoup de contenu, mais il y a beaucoup de contenu qui sont des redites du contenu. C'est-à-dire qu'il y a une vidéo, il y a une autre vidéo qui a plusieurs redites sur la première vidéo. Mais le but, là, c'est qu'à force d'écouter tout ça, à force de vous raconter, par exemple, dans le module 5, l'histoire du professionnalisme de différentes façons, tranquillement, là, ça va rentrer dans votre tête. Hein. Le but, il y a une approche pédagogique qui est celle-là, là, multiplier les contenus, plusieurs redites, et à force de se le faire redire, de l'utiliser de plusieurs, de le voir sous toutes ses coutures, ça finit par tranquillement rentrer. Sinon, là, vous allez voir, le module 4, vous pourriez vous contenter de lire sur la grille de Legault, dans l'ouvrage en question, apprendre cette grille. Mais je dirais qu'une façon simple d'apprendre le contenu de tout ça, comprendre l'utilisation de cette grille-là aussi, c'est d'écouter le contenu, puis tranquillement, vous allez le voir dans la feuille de route. progressivement, lentement, mais sûrement, là, vous allez acquérir les principales notions de ce module. Donc, la grille, c'est une grille qui est en quatre phases. La première phase, elle est assez simple. Le go vous dit, quand vous arrivez face à un problème éthique, d'abord, regardez les faits. Donc, prendre conscience de la situation, c'est ce que ça veut dire, là. Regarder les faits, analyser les faits, mesurer les faits, les conséquences positives, négatives sur chacun des parties, tout ça. C'est assez classique, je dirais, comme première approche. La deuxième phase de la grille, c'est celle sur les valeurs. Donc ça, ce discours-là des valeurs, vous n'êtes pas toujours habitué à ça. Donc, je vous invite à faire attention aux explications, à lire aussi cette partie-là de la grille de Legault pour voir qu'est-ce qu'il veut dire, comment ces valeurs-là vont intervenir dans votre analyse d'un problème éthique. Donc ça, c'est la phase 2, clarifier les valeurs sous-jacentes au problème, voir le principal conflit de valeurs, résoudre ce conflit de valeurs-là, identifier la valeur prioritaire. C'est ce qui vous attend dans cette deuxième étape. La troisième étape, c'est la prise de décision. Donc pour ceux qui pense qu'une décision, ça peut se prendre avec un peu de pif, ben Legault, non, ne pense pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une phase d'analyse, analyse des faits, analyse des valeurs. Éventuellement, il y a une prise de décision, mais c'est une décision qui est prise à la lumière des précédentes phases d'analyse, l'analyse des valeurs, l'analyse des faits. Donc, la phase 3, c'est un peu tout ça. On vous explique comment construire un argument. Tout le langage qui est propre à l'utilitarisme, le déontologisme, ça va revenir dans cette troisième grande étape. Et la quatrième étape, Legault vous dit, vous devez partager. C'est l'étape de partage de sens. Une fois qu'on a analysé un problème, qu'on a pris une décision, comment mettre en œuvre cette décision-là, comment communiquer cette décision-là, avec qui, comment analyser la force, les limites de cette décision-là. Tout ça, ça vient dans une quatrième phase qui vous sera expliquée dans la grille de Legault. Donc, une grille, une seule. La grille est loin d'être parfaite. Ça fait plusieurs années là, que je l'utilise, la grille de Legault. Je l'enseigne. Aujourd'hui, je vois évidemment plusieurs failles, plusieurs limites, mais ça reste une grille qui est intéressante en français. Ça vous donne la chance, l'opportunité, le luxe peut-être, une fois dans votre vie, de prendre un problème éthique et de voir si on prend le temps de bien analyser ce qui peut en ressortir d'un problème éthique, pas juste regarder un problème, prendre une décision puis souhaiter que ça soit la bonne décision. Non, si on prend le temps d'analyser soigneusement, décortiquer un problème dans toutes ses parties pour y voir plus clair. C'est un luxe qu'on peut s'offrir avec cette grille d'analyse. Donc, quatre phases. Legault vous expliquera tout ça. Moi, je vous expliquerai tout ça. Il y a plusieurs contenus de cours qui vous permettent de l'entendre de plusieurs façons. Tout ça, là, c'est pour tranquillement acquérir les notions qui sont liées à cette grille. La grille, vous la trouverez dans l'ouvrage du cours, donc le principal ouvrage qui s'appelle « Professionnalisme et délibération éthique ». C'est un livre qui a été écrit justement par ce Georges Legault. Je vous rappelle que vous avez accès à cet ouvrage simplement, gratuitement, via la bibliothèque électronique de l'Université Laval. Avant, ce n'est pas tous les profs et l'université qui aimaient ce genre d'ouvrage à distance, gratuite, tout ça, là. Mais aujourd'hui, je dirais qu'on est plusieurs à être plutôt contents de ce choix parce que disons que les livres et l'accès à la bibliothèque en ce moment, c'est plutôt, et même à certaines librairies, c'est plutôt compliqué. Donc, l'ouvrage, il est là, il est gratuit. Vous allez sur la page, je crois que c'est matériel didactique du cours. Vous cliquez sur « Accès à la version électronique », puis après ça, vous avez accès à l'ouvrage. Le chapitre 6, là, c'est le chapitre où Legault vous explique c'est quoi cette grille-là. Donc, il prend le temps de vous expliquer les grandes étapes et sous-étapes de cette grille. Puis, il vous donne même à la toute fin, là, dans les annexes, c'est l'annexe 2, oui. Annexe 2, vous trouverez une copie de cette grille-là, une grille très synthétique que vous pourrez utiliser là, pour analyser éventuellement votre TP2. Donc, c'est ce qui vous attend. Quatre phases. Legault vous explique une grille. Moi, je vous rappelle consommez ce contenu, lisez ce qu'on vous demande de lire, allez visionner les vidéos. Et si vous faites tout ça dans l'ordre ou dans le désordre, je dirais, vous allez acquérir les principales notions. Donc, la grille, 4 étapes. Première étape, on se concentre sur les faits. Deuxième, les valeurs. Troisième, il y a la prise de décision. Et finalement, le partage de sens. Donc ça, c'est ma façon de la résumer en quelques mots, mais je vous invite à... Ce ne serait pas suffisant de vous contenter de tout cela. Il faudra faire les étapes qui vous sont suggérées dans ce... Les tâches à faire qui vous sont suggérées dans ce module. Les objectifs, bon, les objectifs, je me permets toujours de les annoncer. Ça vous permet de savoir où on s'en va, là où vous devrez être à la fin de la session. Devrait être plutôt, de nommer, donc objectif 1, de nommer et d'expliquer les principales étapes de la grille. Donc, pas juste les nommer, mais les nommer quand même, et les expliquer. Donc, si pour vous, la lecture, c'est suffisant pour apprendre à les nommer et les expliquer, bien, ça, voilà, ça sera réglé. Mais sinon, à force de vous les faire expliquer dans des différentes vidéos, ça sera plus simple pour vous. De nommer, expliquer les étapes, les sous-étapes de cette grille en question. D'utiliser un... Bon, dans le troisième objectif, utiliser un outil d'analyse approfondie pour résoudre un problème éthique. Ça, c'est carrément le TP2. Hein. Donc, cet objectif-là, vous allez l'atteindre à travers votre TP2. Utiliser la grille et l'appliquer à un cas d'éthique appliqué, un problème d'éthique appliqué que vous aurez vous-même conçu dans le TP1. On y reviendra au TP1. Et finalement, il y a toute la question de la notion de risque et de gestion de risque éthique. Expliquer les problèmes éthiques les plus communs associés à la notion de risque éthique. Donc ça, il y a un ouvrage, là, je l'ai mentionné dans la marche à suivre. L'ouvrage, c'est un texte de Helen Hermansson et Sven Ove Hansen. Ce sera mon accent est ici. Vous irez lire ce texte. C'est un texte en anglais, mais en même temps, j'ai ouvert sur les forums, vous allez voir, là, un forum où je vous demande de traduire collectivement ce texte, d'identifier, d'essayer d'atteindre les objectifs annoncés à travers non seulement votre traduction du texte, mais votre analyse du texte. Et tranquillement, les étudiants vont identifier, du moins c'est comme ça que j'ai procédé lors des sessions précédentes, les étudiants identifient les éléments les plus importants de ce texte. Puis tranquillement, vous allez constituer votre contenu qui est lié à cet objectif spécifique. Du moins, les deux derniers objectifs que j'ai annoncés dans ce module. Donc, la marche à suivre pour ce module 4, vous allez lire l'ouvrage de Legault. En fait, tout le chapitre 6. Vous pouvez regarder aussi la copie synthétique de la grille en annexe. Du moins, vous en aurez besoin pour vos TP. Donc, c'est déjà, là, essayer de retrouver ce texte, essayer de retrouver cette grille pour vous, ce sera déjà une étape. Vous allez visionner les vidéos que j'ai mises en ligne. Il y en a plusieurs. Il y a certaines vidéos qui vous expliquent spécifiquement la grille, d'autres... une vidéo où là, vous allez voir l'enregistrement du cours, comment je l'explique en classe, comment je simplifie et vulgarise un peu tout ça, et à ma manière, avec quelques exercices là, tout particuliers, je vous invite à aller voir le cours. J'ai même préparé pour vous un caout. Donc, si vous pensez que vous êtes bon en matière de grille et de logo, vous irez voir, le caout est disponible sur le contenu de cours. Donc, vous pouvez l'utiliser avec vos amis à distance, vous pratiquer, puis entendre cette charmante toune qui est celle du caout. OK. Module 4, ce serait ça ma mise en place. Avant de passer au module 5, je vous rappelle qu'il y a une étude de cas pour vous qui est le TP1. C'est ce qui vous attend. Nous sommes le 18 mai et le TP1 est à remettre le 24 mai. Donc ça, là, c'est ce dimanche. Il y a plusieurs équipes qui ne se sont pas encore rencontrées. Je vous avais demandé de créer un Google Docs ou un document partageable, de me partager ce document-là, de le partager aussi avec Valérie Roberge. Tout ça, là, c'est pour nous assurer que dès le TP1, vos outils et vos équipes sont efficaces en fonction. Vous êtes là, tout le monde ensemble. Donc, le TP1, il ne vaut que 5 points, là, mais en même temps, ça nous permet ensemble de tester collectivement nos outils. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable de vous rejoindre? C'est 5 à 6 personnes par équipe. Il y a des équipes de 4, là, c'est pas bien grave. Donc, de vous rejoindre. Est-ce que vous êtes capable de vous rejoindre? Donc, pour plusieurs, ce n'est pas encore fait. Est-ce que vous êtes capable de créer collectivement un Google Docs? Pour plusieurs, ce n'est pas encore fait. Est-ce que vous êtes capable de le partager avec le prof? Pour plusieurs, ce n'est pas encore fait. Et après ça, ce que vous devez faire, pour ceux qui sont déjà rendus là, ce que vous devez faire, c'est écrire un problème éthique. C'est simple, le TP1. Okay? C'est simple, mais ce n'est pas compliqué. Collectivement, ça va vous prendre maximum une heure ensemble à créer ça. Mais c'est important que vous le fassiez sérieusement. Pourquoi je dis que c'est simple? C'est parce que vous devez, sur quelques paragraphes, m'inventer un problème éthique que vous risquez de rencontrer dans l'exercice de votre profession. Donc, il y a une étape de recherche aussi là, pour vous assurer de trouver un vrai problème éthique que vous allez rencontrer dans l'exercice de votre profession. Pas quelque chose d'abracadabrant, de trop rare ou de trop peu plausible, de peut-être intellectuellement stimulant, mais de trop rare ou impossible. Donc, vous voyez un peu où je m'en vais, là, ça me prend quelque chose de concret, de réaliste, d'appliqué. Pourquoi? Parce que je veux que ce problème-là soit utile pour vous, parce que le problème que vous allez me décrire là, et que vous allez me remettre dimanche, vous allez vivre avec jusqu'à... Et là, je dis vous allez vivre avec, parce que c'est vrai, jusqu'à la fin de la session. Parce qu'une fois que vous allez avoir créé ce TP1-là, vous devrez le résoudre, ce TP1-là, avec le TP2. Hein, le TP2, c'est quoi? C'est prendre la grille d'analyse que je viens de vous expliquer, que je vous expliquais très sommairement, mais que je vais vous expliquer dans le contenu de cours. Mais vous allez prendre votre problème, l'analyser avec cette grille, et éventuellement, et ce n'est pas tout, là, une fois que vous l'avez analysé, décortiqué, vous allez reconstruire un rapport décisionnel. Ce n'est pas la même chose. Là. Analyser, on décortique en petits bouts, là. Puis rapport décisionnel, on reconstruit. En plus, il y a une intention qui est de convaincre. Donc, à partir de votre analyse, vous allez prendre une décision. Maintenant, une fois que la décision est prise, vous allez l'expliquer, votre décision. Quelle est votre décision? Ça, c'est le TP2 qui s'en vient. Là. Quelle est votre décision? Pourquoi c'est une bonne décision? C'est quoi vos principaux arguments? Comment allez-vous mettre en œuvre cette décision-là? Donc, tout ça, ça vous attend dans le TP2. Pour l'instant, vous allez faire le TP1 qui est de me créer ce problème-là. Donc, vous voyez ce qui s'en vient là? Si vous me créez un problème tout croche en quelques heures, dans les derniers jours, ben, vous allez vivre avec. Puis, non seulement vous ne serez pas pénalisé parce que je ne peux pas vous enlever des points parce que votre problème, il est peu... Ben oui, je vais vous en enlever des points s'il est peu plausible. Justement pour ça, le but, c'est de vous trouver avec un problème concret, réaliste, parce qu'après, vous devez le résoudre dans le TP2. Donc, faites attention, il y en a quelques équipes là, qui, ça arrive au moins une fois par année, là, qui tout à coup, il y en a qui se disent, ça vaut juste 5 points, je vais y donner ça tout croche. Puis à la fin, ben, je vous soustrais les points que je dois vous soustraire pour le TP1, mais ce n'est pas ça le pire. Le pire, c'est vous vous retrouver avec un problème qui vous intéresse peu, sinon pas, et que vous devez le résoudre pendant de nombreuses semaines après ça. Donc, je vous invite, soyez sérieux, rigoureux. Faites vos recherches, créez-moi un vrai problème que vous devrez résoudre dans le TP2. Mais pour l'instant, TP1, d'ici dimanche, 23h59, vous m'écrivez collectivement, ensemble, un petit problème, ça peut tenir sur quelques paragraphes, c'est tout, mais un problème réaliste, concret, appliqué. Voilà, c'est ce que je vous dirais sur le TP1. Module 5 maintenant. Donc, le module 5, c'est un modèle qui est conçu en ordre chronologique. Donc, on retourne en 1840, puis je vous explique comment, tranquillement, progressivement, s'est mis en place, le système professionnel dans lequel vous allez bientôt faire vos premiers pas. Donc, pour vous, c'est plutôt récent, le système professionnel. Pour certains d'entre vous, du moins, là, à travers les années, là, j'ai appris à saisir où vous en êtes. Là. Puis pour plusieurs d'entre vous, vous connaissez très mal le système professionnel. Vous confondez ordre professionnel et syndicat, par exemple, ce qui est deux entités avec des intentions tout à fait différentes. Vous connaissez évidemment mal l'histoire du professionnalisme, donc ne comprenant pas l'histoire, le passé, vous avez de la difficulté à faire sens de tout ça, à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce système professionnel et surtout, vous avez de la difficulté à en identifier le sens, hein? C'est-à-dire que vous allez bientôt faire partie d'un ordre professionnel. Et si on ne fait pas cette étape-là, là, de vous raconter un peu l'histoire, bien, vous allez faire partie d'un ordre professionnel qui, pour vous, a peu de valeur, peu de sens. Puis après ça, bien, vous retrouvez dans une drôle de situation où vous serez encadré, balisé par une institution, une organisation qui, pour vous, a peu de valeur, sinon peu de sens. Donc, le but de tout ça, de vous raconter l'histoire du professionnalisme, c'est de vous aider à saisir le sens, saisir le passé, pour reprendre la formule, pour mieux saisir là, où vous en allez avec tout ça. Et surtout, dans quel pas, là, bientôt, dans quel chemin vous allez bientôt faire vos premiers pas. Cette histoire était là bien avant vous. Il y a du sens, il y a des gens qui se sont réunis bien avant vous. Il y a plusieurs dizaines, sinon des centaines d'années, qui ont décidé de se réunir autour d'un projet commun qui est de mettre la science, science et génie, au service du public, protéger le public. Il y a des enjeux qui étaient liés à ça à l'époque. Ces enjeux-là sont toujours, sont pas exactement les mêmes, mais je dirais que les valeurs sont à peu près les mêmes. Donc, tranquillement, vous irez voir ce module. Je vous raconte à ma manière ce système qui est celui du système professionnel. Alors, vous allez voir, c'est un système qui, au cours de l'histoire, c'est un mouvement je l'appelle de légitimisation sociale, là, c'est-à-dire que tranquillement, les professionnels comme vous se sont associés au nom de la protection du public et tranquillement, parce que leur fonction est de protéger le public, progressivement, ce regroupement de professionnels vont tenter de convaincre les appareils légaux et législatifs là, de leur donner un statut, leur donner une protection, leur donner une organisation, leur donner quelques privilèges. Mais le but, tout seul, c'est de se rappeler que les autres professionnels, les professionnels comme vous, lorsqu'un professionnel se présente là, à un client ou dans le public, hein, il est d'abord là pour se présenter au nom du public. Hein, il est là pour protéger le public. Il porte aussi en lui, je dirais que c'est son chapeau principal, typiquement, les professionnels en sciences et génie, il est là au nom de la science. Hein, lorsqu'un ingénieur ou un arpenteur géomètre se pointe sur le terrain, il est là au nom de la protection du public. Hein, c'est pour ça c'est ce qui lui donne son statut, sa noblesse, sa force. Il est là aussi au nom de la science. Donc, il n'est pas là pour écouter ce que les opinions de tout un chacun et s'y conformer, sinon parce que la personne est en position d'autorité. Non, il est là surtout pour défendre aussi, non seulement le public, mais la science. Et il est aussi, maintenant, je vous disais que c'est un mouvement de légitimisation, le professionnel, au cours de l'histoire, s'est vu reconnaître sa fonction, son statut, ses pouvoirs par le législateur. Donc aujourd'hui, un professionnel se présente au nom de la loi aussi, c'est-à-dire qu'il a le système de droit et je dirais de justice derrière lui. Lorsqu'un professionnel se présente sur le terrain, c'est au nom de la science qu'il peut parler, c'est au nom de la protection du public qu'il peut parler et aussi c'est au nom de la loi. Parce que pour plusieurs d'entre vous, vous êtes balisés par la loi. Vous avez, oui, des devoirs et obligations professionnelles. Et ces devoirs et obligations professionnelles, ce n'est pas juste de bonnes intentions, c'est aussi sa force de loi. Donc, il y a toutes sortes, on va y revenir un peu plus tard dans les autres modules, là. Mais il y a une tension, notamment avec l'employeur. Là, vous avez toutes sortes il y a toutes sortes de lois qui sont en fonction justement pour vous donner une force collective pour négocier avec les différentes parties avec lesquelles vous allez interagir dans l'exercice de votre profession. Donc, c'est la courte histoire que je vous fais. Je l'ai racontée en 5 minutes. C'est évidemment trop bref, mais vous irez voir l'enregistrement de cours. Je prends le temps de passer à travers cette histoire du professionnalisme, voir un peu comment que le terme même professionnel a changé, ce qu'on appelait les ordres professionnels, ce qu'on appelle les ordres professionnels. Avant, c'était plutôt des corporations professionnelles. Donc, les termes ont changé. La force, la reconnaissance a également changé, évolué. La protection du public a toujours été là. Mais pour vous, ce sera intéressant de voir un peu, là, de se donner un petit peu de profondeur historique, là, voir un peu d'où vous venez pour savoir, pour reprendre encore cette formule, pour savoir un peu où vous allez avec tout ça. Et comme le module 4, dans les enregistrements, il y a plusieurs enregistrements qui vous sont proposés, plusieurs vidéos. Cette histoire vous est racontée de multiples façons. Mais moi, je vous la raconte au moins de deux façons. Il y a Georges Legault, encore lui, donc qui va revenir dans ce module-là, qui lui aussi, j'ai quelques vidéos, des enregistrements avec Georges Legault. C'est toujours charmant. C'est un vieux professeur là, de Montréal qui roule ses airs là, à l'ancienne. Vous allez voir, c'est tout à fait charmant. Donc, lui aussi, il vous raconte l'histoire à sa manière. J'ai trouvé aussi quelques textes des auteurs qui ont des sociologues, historiens. Vous allez voir des textes où eux aussi vous racontent à leur manière l'histoire du professionnalisme. Le but, vous allez voir des recoupements, c'est sûr. Mais encore une fois, le but, c'est à force de consommer ce contenu, de lire, d'écouter, de visionner tout ça mais tranquillement, là, les principales balises, les principales étapes de cette histoire qui est celle du professionnalisme, tranquillement, vous allez acquérir tout ça. Donc, allez voir les vidéos avec Georges Legault. Vous allez voir, c'est toujours charmant de voir ça. Et les objectifs de ce module, module 5, à la fin, d'ici la fin de ce cours, hein, encore une fois, ce n'est pas pour rien que je vous donne les objectifs. Lorsque je vais concevoir votre examen, là, moi, je prends les objectifs puis je conçois une question d'examen avec tout ça. Par exemple, si je prends une question d'examen avec le cours 5, ben, je pourrais prendre une question d'examen puis vous demander d'expliquer comment, historiquement, les ordres professionnels se sont constitués au Québec. Donc, êtes-vous capable de l'expliquer? Êtes-vous capable de me donner quelques balises? Êtes-vous capable de, si je vous donne des balises, de les remettre en ordre? Êtes-vous, donc, ce genre de questions-là, le but, c'est de vous familiariser un peu avec tout ça. Être capable aussi d'identifier les principaux jalons de l'histoire du professionnalisme au Québec. Et dernier objectif, distinguer les différents modèles de professionnels, les différents modèles d'ordre professionnel. Pour ça, je ne les ai pas introduits, mais vous irez voir dans les contenus de cours, on aborde là, historiquement les différents modèles, parce que ça n'a pas toujours été les mêmes modèles d'ordre professionnel qui ont été promus. Ce que ça veut dire, c'est le sens qu'on donne à un ordre professionnel, ça n'a pas toujours été le même sens. Le sens qu'on donne au terme « un professionnel », ça n'a pas toujours été le même. Donc, tout ça, ça a évolué. Puis sociologiquement, on a observé des modifications, des nuances. J'ai sorti quelques archétypes là, pour bien que vous compreniez comment ces différents concepts ont évolué au cours de l'histoire. Et pour ça, là, vous aurez besoin d'aller voir les différentes vidéos du cours. Donc, module 5, c'est un peu ça, les objectifs. La marche à suivre, ben, encore une fois, vous allez voir les vidéos, vous allez lire les textes. Encore une fois, vous aurez besoin de l'ouvrage de Legault. Hein, dans le module 4, c'était le chapitre 6. Ici, c'est le chapitre 1 et 2 que vous devez lire. Et encore une fois, pour chacun des modules, il y a des forums. Les forums de discussion, encore une fois, comment je m'en sers, c'est que je vous pose des questions pour voir si vous avez atteint les objectifs de chacun des modules. Donc, pour vous, c'est une façon de vous pratiquer, de voir si effectivement vous êtes capable de répondre à des questions qui vérifient si vous avez atteint des objectifs de module. Et sinon, ben, vous pouvez voir un peu les réponses de vos collègues, voir où ils en sont, quelles sont les contributions qui sont les plus intéressantes, utiles de vos collègues. Souvent, je me permets de les identifier lorsque moi aussi j'explore les forums. Donc voilà, c'est ce qui vous attend. Il y a aussi les questionnaires. Donc les questionnaires, c'est un peu comme les forums. C'est des questions des fois un peu plus synthétiques, des choix de réponses. Mais là aussi, dans les questionnaires, j'essaie de voir avec vous. Et je vous donne deux tentatives dans les questionnaires. Essayez de voir avec vous est-ce que vous avez atteint les objectifs de ce module. C'est ce qui vous attend. Donc, deux modules. Module 4, la grille de Lego. Ça fait déjà, je dirais, 10 fois que je dis grille de Lego, au moins dans ce cours. À la fin de ce cours, vous l'aurez entendu au moins 262 fois. Donc, en plus des fois, vous allez dire la grille de Lego avec dans vos discussions sur Google Docs ou à travers les outils que vous allez utiliser. Là, mais c'est quelque chose qui, pour l'instant, vous n'êtes pas familier avec ça. Et à la fin du cours, vous devriez être très familier avec cette grille. Et le module 5, qui est encore une fois très classique, je vous raconte tranquillement l'histoire du professionnalisme au Québec avec ses grandeurs et aussi ses quelques misères. Hein. Donc, vous irez voir tout ça. C'est tout. C'est la présentation que je voulais vous faire du module aujourd'hui, mais en même temps, c'est ces rencontres avec vous qui sont brèves et qui se veulent brèves. C'est aussi une façon de répondre à vos questions. Avez-vous des questions sur le déroulement du cours, sur ce qui s'en vient, sur les évaluations? Ce serait le moment de poser vos questions. Mathieu Coton pose une question sur le TP1. Doit-on nommer une entreprise et des personnes existantes ou peut-on rester un peu vague, dire une petite entreprise? Donc là, ici, je comprends bien le sens de votre question, Mathieu. Le but, c'est typiquement ce que j'aimerais, c'est que vous nommiez de vraies entreprises. Pourquoi? De vraies personnes existantes, là, j'hésite un peu parce qu'en même temps, il ne faudrait pas que ça tombe dans la médisance ou que ça risque de compromettre des données confidentielles ou sinon de compromettre vos liens avec quelques personnes ou de salir un peu de nuire à leur réputation. Le but de tout ça, là, c'est que ça soit le plus concret et réaliste possible. Si vous nommez de vraies compagnies, je le sais plus tard, là, dans le TP2, je sais ce qui vous attend, puis vous avez besoin de noms de vraies compagnies parce qu'éventuellement, vous aurez besoin de noms, pas de noms, de vrais sites Internet de ces vraies compagnies, puisque sur ces sites Internet, il y a les vraies valeurs de la compagnie, du moins c'est les valeurs qui sont promues. Plusieurs de ces compagnies, vous avez accès à des codes de déontologie, à des énoncés de valeurs, même des fois à des promesses des ententes de qualité, par exemple, des normes, les normes ISO, par exemple. Il y a plusieurs compagnies qui vous disent les normes ISO auxquelles ils se conforment. Donc, tout ça, là, c'est un appareillage normatif très concret. Vous en aurez besoin dans votre TP2. Donc, moi, je vous dis, choisissez des vraies compagnies. Si vous avez peur de nuire à la réputation de cette compagnie, mettez en note de bas de page là, que tout ça, c'est fictif, mais en même temps, pour l'exercice, là, vous avez besoin de cibler des vraies compagnies. Ciblez vos futurs employeurs, ça vous permettra déjà de mieux les connaître, de connaître. Si vous avez l'intention de postuler pour un employeur, c'est le bon moment. Là. Vous allez voir là, son site Internet, vous allez connaître ses valeurs. Éventuellement, là, si vous avez à faire une entrevue avec eux, là, vous allez connaître bien leur site, vous allez connaître leur énoncé de valeurs. Vous allez peut-être même connaître certaines normes annoncées, peut-être même certaines normes internes, ce qui n'est pas rien. Donc oui, ça me prend un vrai employeur, une vraie compagnie. De vraies personnes, je dirais non. Donc, vous pouvez l'appeler Monsieur Joe Machin, là, ça me dérange moins. Mais de vraies compagnies, dans une vraie ville, dans un vrai contexte, très réaliste, là, ce serait essentiel pour que votre TP2 soit le plus efficace possible. Question Nicolas Engel. Merci de votre question, Nicolas. Pour le TP1, doit-on prendre des cas qui ont excité où pouvons-nous les exister? Donc, c'est pas exciter, c'est plutôt exister. Je comprends que ça vous enthousiasme, Nicolas, mais pas tant que ça. Donc, pour le TPA, doit-on prendre des cas qui ont existé ou pouvons-nous les imaginer? Vous pouvez prendre des cas qui ont existé. Mais les cas existants, il faut évidemment les changer suffisamment pour les rendre différents de la réalité. Et pourquoi? Parce que la tentation, et je l'ai vu avec certains de vos collègues là, qui me prennent des cas classiques, là, comme il y avait la fraude chez Volkswagen à une certaine époque, il y a chez Desjardins la fuite de données confidentielles. Donc, il y a toutes sortes de cas existants, mais je dirais que la tentation pour vous, quand vous prenez un cas existant, c'est de croire que la bonne décision, c'est, étant donné que vous avez accès à des informations privilégiées, c'est-à-dire que vous savez que ça a mal tourné, c'est facile de juger à rebours les personnes qui ont pris cette décision-là et de vous dire ils ont pris la mauvaise décision. Ce que je vous invite à faire, c'est peut-être vous inspirer d'un cas existant, le modifier suffisamment pour faire en sorte que vous fassiez vraiment l'effort de vous plonger, dans la tête et dans la situation rencontrée par les personnes à l'époque. Si on prend Desjardins, qui est l'exemple peut-être le plus récent que vous avez vu circuler, le but, c'est pas de savoir, bon là ici, on sait que ça a vraiment mal tourné. Le but, ce serait de changer plusieurs données, plusieurs informations pour que ça ressemble à Desjardins, que ça soit aussi concret que ça, et de vous demander d'expliquer le cas comme si c'était en train de se passer et analyser avec l'information dont vous disposez, pas le futur. L'information future, vous ne la connaissez pas. Mais l'information présente, qui est des informations qui sont là. Toutes les fois qu'on prend une décision difficile, on a accès à certaines informations. On ne sait pas comment ça va tourner, mais on essaie de prendre la meilleure décision avec l'information dont on dispose. Donc, c'est dans cet esprit-là là, que je veux que vous conceviez votre TPE. Si c'est un cas existant, on le modifie, ne serait-ce que pour vous donner un défi supplémentaire de ne pas résoudre un problème qui est déjà avéré, mais aussi là, pour vous aider à vous plonger dans la tête de ces personnes-là qui sont en train de prendre des décisions et non pas rester dans votre tête, c'est-à-dire une personne qui sait le résultat de la décision. Une vraie décision éthique, on ne sait jamais c'est quoi la bonne décision. On le sait après coup, c'était quoi la bonne décision. Si ça tourne mal, on se dit « c'était pas une bonne décision ». Mais l'important et le seul accès auquel vous avez, là, c'est être capable, tenter de prendre la meilleure décision possible, celle qui est la mieux argumentée, documentée. Après ça, si ça tourne mal, c'est plus facile pour vous de revenir à rebours et dire avec l'information dont on disposait, avec le processus qu'on s'est donné décisionnel, on a pris le temps d'analyser, on a pris la meilleure décision possible et non pas... on a pris une décision comme ça avec notre pif, ça a mal tourné, puis arrangez-vous avec les explications. Donc voilà, ça ressemble un peu à ce qui vous est demandé. Voilà, ça répond à votre question. Je le vois bien ici dans la fenêtre de chat, Nicolas. Sinon, ce sera tout. Hein? Sinon, c'est mon cue. Sinon, ce sera tout pour cette semaine. On ne lâche pas ces deux modules. Vous le voyez, là, ça va vite. Ça va vite. Ça fait déjà 3 semaines. Alors, on est déjà à 5 modules. Donc, si pour vous, là, pensez à ça. Je voyais statistiquement là, ce qui se passe sur le site. Il y en a qui n'ont rien fait encore. Là, donc, ça va vite. Déjà 5 modules. L'été, là, c'est très condensé, très dense. Si vous prenez du retard, vous voyez que ça peut aller très mal. C'est la dernière fois là, que je vous fais le... Non, c'est pas vrai. C'est pas la dernière fois que je vous fais le coup de 2 modules. Là. Je pense que ça arrive un peu vers la fin. Il va y avoir 2 modules aussi, mais ce sera peut-être un peu moins... un peu moins de contenu dans ces 2 modules-là. Là. Mais pour vous, cette semaine, c'est 2 modules, donc 2 fois plus de travail, j'en conviens, mais en même temps, c'est le rythme exigé pendant une session d'été universitaire. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout. Excellente semaine. Lavez-vous les mains, restez à 2 mètres et prenez soin de vous et de vos proches. Bye-bye.